Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
L'air en forme, je te relaxe.
Hey, y a quelqu'un?
Comment on va être bien ici?
Psst, l'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il fait une chaleur torride dans les musées ces jours-ci. Peut-être avez-vous entendu parler du défi Best Museum Bum. C'est un concours lancé sur les réseaux sociaux par le musée archéologique de Yorkshire au Royaume-Uni. Il a proposé à tous les musées du monde de s'affronter dans un concours de fesses. Chacun doit prouver qu'il a dans sa collection la statue ou la peinture du postérieur le plus agréable à regarder. Hermaphrodite endormie, statue en marbre exposée au musée du Louvre à Paris, pourrait prétendre au titre mondial. Cette opération rencontre, faut-il s'en étonner, un très joli succès sur les réseaux. Aussi ai-je cru bon de démarrer ainsi cette émission qui sera consacrée au vélo. Ben quoi ? La bicyclette muscle les fessiers, je vous signale. Faire du vélo, c'est excellent pour garder la forme en général. Et puis ça rend philosophe, paraît-il. La crise sanitaire a fait gagner du terrain à la bicyclette. Alors demandons-nous ce matin pourquoi et comment les Français se sont mis à pédaler. Quelles sont les victoires et les limites de la vélorution ? Pardon si mon histoire de fesses vous a donné de faux espoirs, mais le vélo méritait bien votre attention et vous avez le droit de pédaler jusqu'au musée pour aller voir des fesses de statues. Soyez les bienvenus.
Dorothée Barba, 9h-11h sur France Inter.
Cette première heure d'émission est la vôtre, que vous soyez cycliste ou non, vous intervenez en direct en appelant le 01 45 24 7000. Émission en partenariat avec l'Obs qui consacre un dossier à la vélorution. Bonjour Sébastien Billard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste à l'Obs, spécialiste d'écologie, c'est vous qui avez piloté ce dossier. Vous confirmez, le vélo ça muscle les fesses et les mollets.
Ça muscle tout. C'est bon pour la santé, bon pour l'environnement, bon pour le corps.
Mathieu Chassignet est également avec nous en direct et en duplex de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Je salue et remercie mes camarades de France Bleu Nord au passage. Mathieu Chassignet, vous êtes ingénieur à l'ADEME des Hauts-de-France, agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous tenez également un blog sur le site d'Alternatives économiques pour une mobilité durable et solidaire. Et mon troisième invité avec moi en studio est un écrivain et dessinateur, auteur de bandes dessinées. Bonjour Didier Tronchet.
Bonjour.
Bienvenue. Vous publiez chez Delcourt un savoureux petit traité de vélosophie en bande dessinée. Donc, depuis combien de temps vous déplacez-vous à vélo, Didier Tronchet ?
Je suis arrivé à Paris dans les années 90, d'être du 20e siècle. Et là, je suis tombé sur une jungle urbaine invraisemblable, où il n'y avait absolument aucune place pour la circulation du vélo, pour l'existence même du cycliste. Et j'ai compris qu'il fallait se battre pour survivre, et j'ai survécu.
Bravo.
Alors, merci, oui, à l'époque on pouvait dire ça. Simplement, j'ai voulu partager toutes ces sensations du cycliste rebelle à l'époque, dans un traité de vélosophie qui était d'abord écrit, puis je l'ai repris très récemment là, sous forme de bande dessinée, parce que la situation a évolué.
Ça remonte à 20 ans, hein, le premier traité de vélosophie. Vous n'êtes pas un nouveau venu dans le club des cyclistes. Est-ce qu'il y a la tentation, un peu comme avec les fans d'un groupe de musique, de moins aimer quand tout le monde se met à aimer, quand ce n'est plus un plaisir pour quelques initiés ?
Pas du tout. J'étais ravi de me voir rattrapé par le collectif et voir que tout à coup, la ville nous était offerte. Moi, j'ai découvert les pistes cyclables avec un gros sigle qui ressemblait à un vélo. Donc, et des sens interdits où c'était écrit sauf vélo. Formidable.
Ça, c'était une sacrée émotion, j'imagine, la première fois.
Oui, c'était un renversement total. Donc, je ne vais pas faire le difficile. Et au contraire, je suis ravi de retrouver dans ce même mouvement que je trouve très salutaire, pas seulement pour moi ni pour les gens qui roulent, mais pour la ville elle-même.
Mathieu Chassignet, commençons peut-être par un premier constat. Quelle est l'étendue ? Quels sont les chiffres de cette vélorution liée à la crise sanitaire ?
On voit depuis la sortie du confinement qu'il y a une progression assez importante de la pratique du vélo. On est à peu près à plus 30% au mois de mai-juin 2020 par rapport au même mois de 2019.
30%,
plus 30% alors même que les étudiants n'ont pas repris les cours et que un nombre assez important de personnes sont encore en télétravail. Donc ça pourrait être encore bien plus. Et puis on voit aussi qu'il y a une hausse très importante.
J'ai ma module qui me revient. Studio.
Oula, attendez.
Quelque chose. J'ai pas de moins 1.
Et on a même des ruptures de stock dans beaucoup de magasins. En fait, si on n'avait pas eu ces ruptures de stock, on aurait peut-être vu une hausse qui aurait été encore plus importante. Et cette hausse va donc certainement se poursuivre à la rentrée, en fait, dès le mois de septembre. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hausse, elle est partout. En fait, elle n'est pas que en ville. On reproche parfois au vélo d'avoir un peu une fracture territoriale entre d'une part les villes et puis d'autre part le périurbain, le rural. Là, on voit que le plus 30% est à peu près partout, voilà. Aussi bien en ville qu'en banlieue ou qu'en zone plus rurale.
Je m'excuse au passage auprès des auditeurs et auditrices, on a entendu les techniciens parler entre eux, entre les studios de Radio France à Paris et ceux de France Bleu Nord à Lille, mais tout va bien. La liaison en duplex se passe excellemment. Donc en ville et à la campagne, hein, cette vélorution, Mathieu Chassignet, c'est assez exceptionnel pour le constater.
Bah oui, parce que... C'est depuis quelques années, ce sont plutôt les villes qui ont fait leur vélorution, qui ont aménagé des pistes cyclables, qui ont modéré la circulation automobile. Et ce mouvement-là, on l'a très peu vu finalement dès lors qu'on passait le périphérique ou dès lors qu'on allait dans le périurbain, dans le rural. Et donc là, c'est très intéressant de voir que ce renouveau, il n'est pas cantonné uniquement aux urbains. Il s'est vraiment répandu à tout type de territoire. Et c'est très encourageant pour la suite parce que si on veut que le vélo progresse, il faut toucher d'autres types de territoires que les zones hyper denses.
Le vélo est peut-être le grand gagnant du déconfinement. Quelque chose est en train de changer dans le paysage urbain français. C'est ce qu'on lit dans l'Obs qui est paru hier. Les magasins de réparation de vélos sont absolument noyés. Les pistes cyclables temporaires ont explosé dans de nombreuses villes. Mais est-ce une lubie de bobo? Vous posez la question, hein, Sébastien Billard, dans vos colonnes.
Ça l'est de moins en moins puisqu'on voit que Paris n'est pas la seule ville à avancer sur le sujet. Il y a un tiers, on a beaucoup parlé des pistes cyclables provisoires qui ont émergé depuis quelques semaines. Il y a un tiers de ces pistes provisoires qui viennent aussi des milieux peu denses. Quand on dit peu dense, c'est le périurbain ou c'est le rural. Donc en fait, des maires ou des départements, des collectivités locales se mettent à dessiner des pistes cyclables provisoires aussi en dehors des villes. Elles sont encore minoritaires. Mais ça, c'est assez nouveau, parce que à l'heure actuelle, c'est certain que le vélo est un phénomène avant tout urbain. Donc
alors, cette vélorution a aussi une histoire qu'il faut peut-être rappeler rapidement, Mathieu Chassignet. Elle n'est pas née avec le Covid, bien sûr. De quand datez-vous l'émergence réelle du vélo?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que lors de chaque crise dans le monde, on voit que le vélo tirait son épingle du jeu. Ça a commencé dans les années 70, en 73, premier choc pétrolier. On a eu une vraie augmentation de la pratique du vélo dans certains pays, les Pays-Bas notamment. En 79 pour le second choc pétrolier également. Et puis on voit que plus près de nous en France, finalement les grandes grèves de 95, ça a été un effet déclencheur du renouveau du vélo à Paris. On était à l'époque à 0,4% des déplacements qui étaient réalisés à vélo dans Paris. Aujourd'hui on a plus de 5%. Donc on a une multiplication par 15 entre 95 et aujourd'hui. Donc voilà, ce qui est intéressant avec le vélo, c'est que c'est un mode de transport qui est très résilient en fait. C'est-à-dire qu'il est très résistant face aux crises passées, puis peut-être aux crises futures qu'on peut en imaginer avec des crises sanitaires ou des crises liées au changement climatique, par exemple. À chaque crise, donc, le vélo tire son épingle du jeu. Et les gens qui se mettent au vélo continuent en général. On voit que voilà, qu'après 80% des gens qui testent le vélo poursuivent.
Didier Tronchet, je ne sais pas de quand vous datez, vous, l'émergence du vélo, mais vous avez cette phrase savoureuse dans votre traité de philosophie. On a vraiment gagné le jour où les voitures ont cessé de nous mépriser pour nous haïr.
Absolument, oui. Avant, on avait droit à leur mépris plus complet, on n'existait même pas.
Maintenant, ils vous détestent.
Et c'est génial.
Bon, ça, vous savourez?
Un petit peu, c'est-à-dire mon grand plaisir, c'est dans les embouteillages de remonter toute la file de gens qui sont cloîtrés dans leur voiture, avec un léger sourire, plutôt compatissant que méprisant. J'ai envie de leur dire, écoutez les gars, sortez, prenez un vélo, mais vous verrez la différence.
Il y a quelque chose, puisque vous parlez du feu rouge, d'important à souligner, c'est que parfois, le cycliste a le droit de griller le feu rouge. C'est signalé par un petit triangle en dessous du feu tricolore, et ça, les automobilistes le savent peu, et se mettent à klaxonner quand on passe au rouge.
Oui, absolument, et moi, dans ces fameuses années dont je parle, j'ai été sanctionné pour avoir fait ce même dépassement de feu rouge sur la droite. Et je pense que tous les privilèges qu'on peut avoir maintenant, qui sont quand même pas énormes, simplement...
Vous parlez de privilèges?
Ouais, encore un petit peu. Ouais. On n'a pas tout à fait remplacé la voiture par le vélo, donc jusqu'à maintenant, on gagne petit à petit des privilèges, et notamment celui-là de franchir un feu rouge, qui est formidable. Mais il faut le comprendre parce qu'on n'est pas en danger, on ne met pas en danger personne. C'est ça le critère.
Voilà, ils sont bien minces, en tout cas, ces privilèges par rapport à ce que vous subissez encore. C'est ce que vous dites?
Je pense pas qu'on puisse maintenant se plaindre. Non. Franchement, on a des avenues complètes. Non, il faut être modeste. D'ailleurs, je pense maintenant le truc par rapport à mon époque, c'est de pas être triomphant, être un bon gagnant, c'est-à-dire ne pas à notre tour retourner le mépris contre les piétons. contre les autres modes de circulation qui peuvent exister et contre les voitures. Il faut simplement attendre que les voitures comprennent que ils sont pas à leur place en ville. C'est pas fait. La ville n'est pas faite pour la voiture. C'est une aberration. On s'en apercevra peut-être dans quelques années. Et que le vélo est peut-être le plus adapté, mais pas seulement. Il faut coexister pacifiquement. C'est mon idée un peu.
Racontez-nous vos histoires de biclou, chers auditeurs et auditrices, au 01 45 24 7000.
雲を追いかけて丘を駆け上る朝のビーチ自転車仲間のわんぱく5人が憧れる人はああポレット彼女の前では誰もが大人のして見えない天使の羽つけて走る水平線までアビシクレット郵便を配るパパを追いかけて長い自転車乗りなら八つの時から誰にも負けないアポレットみんなで自転車投げ出し無邪気に遊べば
Il s'appelle Tomuya, c'est un japonais qui vit à Paris et qui a repris, vous l'avez reconnu évidemment, le grand classique d'Yves Montand, La bicyclette sur France Inter.
France Inter, l'été comme jamais.
Vive la Vélorussion, c'est le titre à la une de l'Obs ce matin et c'est notre thème jusqu'à 10h avec mes trois invités. Didier Tronchet, auteur de bande dessinée Vélosophe, Mathieu Chassinier, ingénieur à l'ADEME, spécialiste de la bicyclette, et Sébastien Billard, journaliste à l'Obs. On va faire un tour au standard de France Inter où nous appelle François-Xavier. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour.
Alors est-ce que vous êtes à vélo?
Alors là, je viens de le poser, je le reprends dès que nous aurons raccroché.
C'est une bonne idée pour votre sécurité. Vous êtes en vacances à vélo, je crois, François-Xavier.
Oui, c'est ça. Je suis parti au début du mois. J'ai descendu. Alors bon, je le fais là pour l'instant. Oui, bon.
Vous êtes parti d'où ?
Je suis parti de Saint-Nazaire, de chez moi. L'intérêt, c'est que quand on part en vélo, dès qu'on ferme la porte de sa maison, on est en vacances. Je suis descendu donc, par la Vélodyssée jusqu'à Rochefort, en longeant l'océan. Et puis là, j'ai bifurqué pour aller à La Rochefoucauld, près d'Angoulême, où je termine ma séance de dog sitting, pour rendre service à une amie. Et après, je remonte vers la Loire, à Tours. Et à Tours, je bifurque vers l'est pour aller au moins jusqu'à Chaumont-sur-Loire.
Visiter les jardins du château de Chaumont.
Les jardins qui sont magnifiques. Mmh. Et après, bon, bah, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais j'arrêterai peut-être là pour après redescendre la Loire jusqu'à chez moi.
D'accord, vous ne rentrez pas en train, donc François-Xavier, tout à vélo. Hein.
Tout à vélo.
Combien de kilomètres au total?
1500 à peu près.
Pas mal. Sur quelle durée?
Sur un mois avec les 15 jours de rupture, avec les 15 jours de repos, enfin de repos, oui, de doxitine, sur un mois, donc en fait sur à peine 3 semaines. Quoi.
Du vélo et de la garde de chien, tout un programme pour cet été. Merci beaucoup pour votre témoignage, je vous souhaite une très belle journée François-Xavier. Sébastien Billard, dans les colonnes de l'Obs, on parle également de rando à vélo, très grosse tendance de cet été 2020.
Ouais, on le sait peu, mais il y a beaucoup de véloroutes en France et en Europe pour pouvoir pratiquer le vélo sur ces temps de vacances en toute sécurité. Il y a 16 véloroutes européennes et il y en a 9 sur les 16 qui traversent la France.
Vous en avez une en particulier à recommander ?
Moi, j'ai fait il y a quelques années celle qui va de Paris à Londres. C'est un peu compliqué d'aller en Angleterre en ce moment, mais on peut au moins faire le tronçon Paris-Dieppe,
français, ouais,
qui est absolument superbe et agréable.
La Via Rodana qui longe le Rhône est superbe également.
Ouais. Mm. On en a aussi beaucoup dans l'ouest de la France et sur la façade atlantique aussi.
Votre journaliste Elodie Page a donné de sa personne, hein, elle a testé une rando à vélo et on découvre qu'elle a hésité à prendre un vélo électrique. Sérieusement ?
Beaucoup de gens sous-estiment leur capacité physique. On se fait tous une montagne de l'effort à vélo. Finalement, c'est accessible à n'importe qui, quasiment. Quelqu'un en bonne santé peut pédaler assez facilement sans moteur électrique. Après, si ça permet de mettre des gens au vélo, le vélo électrique, c'est parfait.
Mathieu Chassinier, je rappelle que vous êtes ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'Environnement. Le cyclotourisme, les randonnées, les vacances à vélo, ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la Vélorussion ?
Oui, ça en fait partie. C'est vrai que le vélo, il y a différentes facettes. Il y a le vélo urbain, il y a le vélo plutôt loisir, touristique. C'est aussi un secteur économique qui est important, le vélo-tourisme. C'est à peu près 5 milliards d'euros chaque année, avec 20% des cyclotouristes qui sont étrangers. Et on voit que les cyclotouristes ont tendance à dépenser un peu plus chaque jour que les touristes normaux, si je puis dire. Ils dépensent 20% de plus chaque jour. Et donc, c'est des créations d'emplois. C'est à peu près 50 000 emplois en France grâce au vélo-tourisme. Donc voilà, le vélo, c'est aussi un secteur économique qui crée du PIB et qui crée des emplois en France. Et il faut aussi le rappeler.
On parlait du vélo en ville tout à l'heure. Est-ce que c'est compliqué pour les autorités de soutenir les deux à la fois, si j'ose dire, le vélo comme transport quotidien pour aller travailler et le vélo comme loisir pour partir en vacances?
Non, je pense que c'est complémentaire parce que justement, c'est notamment en zone peu dense, le réseau d'itinéraires plutôt touristiques, c'est aussi le support à une mobilité quotidienne. Et d'ailleurs, on a vu pendant le confinement que certains préfets avaient fermé des véloroutes et ça a beaucoup embêté des gens qui avaient besoin d'aller travailler, qui comptent sur ces itinéraires pour aller travailler et qui pouvaient plus se déplacer à vélo du coup ou plus difficilement. Donc en fait, il y a pas forcément de frontières très établies entre le vélo touristique ou le vélo quotidien, c'est-à-dire que c'est des infrastructures qui peuvent être utilisées de différentes manières.
Didier Tronchet, vous êtes plutôt piste cyclable en ville ou grandes échappées en vacances sur votre bicyclette?
Non, je suis vraiment strictement urbain, à vrai dire. J'adore l'idée de remplacer un moment pénible en métro ou en bus en un moment de joie, de bonheur. On parle surtout du vélo ici, sur un angle pratique, mais ce qui m'intéresse et me fascine dans le vélo, c'est que c'est un moyen de déplacement intérieur avant tout. C'est-à-dire que dès qu'on est sur un vélo, notre regard est entièrement bouleversé et se révèle tout à fait nouveau, puisqu'on découvre une ville qu'on ne connaissait pas depuis le vélo. Et c'est ce voyage-là qui m'intéresse. Et puis, il y a une sensation d'euphorie qui vient que peut-être les automobilistes, évidemment, ne peuvent pas connaître parce qu'ils sont coincés dans leur voiture, les pauvres. Mais dès qu'ils commenceraient à pédaler, ils verraient tout à coup une espèce de mécanisme bien connu qui est la montée d'endorphine, l'espèce d'euphorie qui l'accompagne, qui fait qu'on est dans un sentiment de fusion, d'euphorie avec la ville et avec les autres aussi. Et ça, c'est pour moi l'acquis majeur du vélo.
Éric Fotorino, journaliste, très, très fervent défenseur également de la bicyclette, signe la préface de votre bande dessinée, Didier Tronchet, et il écrit ceci: on apprend beaucoup de soi en pédalant au milieu des autres. Qu'avez-vous appris de vous sur un vélo?
Je ne sais pas si j'apprends totalement des choses sur moi, mais j'apprends des choses sur la façon d'habiter une ville. Ça, c'est très très important pour moi. C'est que je passe à un stade où tout à coup la circulation est fluide à l'intérieur aussi, et où je me découvre effectivement beaucoup plus calme que je pensais l'être, alors que le reste des transports me mettait dans un état d'excitation et d'électricité. Il y a une ville comme Paris, il y a une électricité incroyable, et on y échappe dès qu'on monte sur le vélo par un mécanisme tout simple, qui est le fait de pédaler. La façon de pédaler pour moi, c'est comme une auto-hypnose. Un peu comme, j'ai l'impression que le mouvement des genoux alternatifs crée comme le mouvement du pendule, une espèce d'hypnose, et il nous met dans un état de flottement. Alors, il faut faire attention de ne pas trop flotter non plus.
Il faut être quand même conscient au monde, sur un vélo.
Oui, mais on l'est d'autant plus. Mais surtout, on est en accord avec le mouvement circulatoire, et donc on est moins en danger qu'on ne le croit.
La bonne humeur et le don du vélo à l'espèce humaine, c'est ce que vous écrivez dans cette bande dessinée. Est-ce que vous m'autorisez à dire que vous êtes d'une indécrottable mauvaise foi, Didier Tronchet, lorsqu'il s'agit notamment de comparer le vélo et la bagnole? Une dispute en voiture prend des proportions énormes, écrivez-vous, car dans l'espace confiné, l'agressivité augmente. La voiture est un amplificateur du négatif. Une dispute à vélo, ajoutez-vous, est impensable. Tout se dissout dans l'atmosphère en trois coups de pédale. Non, mais ça va pas, franchement. Dispute à vélo, impensable?
Moi, je crois, mais c'est une expérience personnelle.
Alors, j'invite les auditeurs et auditrices à nous raconter leurs plus belles engueulades à bicyclette.
Ça dure pas longtemps, parce qu'on est dans un mouvement, on est dans une espèce de joie, de bain, de communion avec à la fois ce qui nous entoure et la personne avec qui on est. Non, il y a attaché à l'idée du vélo, l'idée d'amour aussi. Un vélo, love, c'est le même mot inversé.
Ah oui.
Et donc, je pense pas qu'on puisse très longtemps se chamailler sur un vélo. Tout est là pour nous mettre dans une entente un peu aérienne comme ça, une circulation qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on est effectivement en voiture, et où là on est coincé dans une discussion dont on peut pas sortir, et l'électricité s'accumule dans l'habitacle, et je pense qu'on n'en sort pas indemne.
Vélo et l'anagramme de love, voilà l'une des découvertes de ce matin. Je crois peut-être, Didier Tronchet, que si vous n'avez jamais vécu de dispute à vélo, c'est parce que justement vous avez un usage très urbain du vélo. Les grandes randonnées, les grands voyages suscitent parfois quelques désaccords, évidemment, dans les familles, dans les couples. Encore une fois, j'appelle au témoignage. Éric Fotorino, encore lui, écrit ceci dans la préface de votre livre: s'il n'est pas vraiment fan de bagnole, comme tout pédaleur ayant évité bien des portières, sa mauvaise foi n'est pas irrémédiable. Il parle de vous, encore la mauvaise foi. Il sait que chaque liberté chèrement acquise de pédaler en paix se paie en retour d'un civisme obligatoire et chevaleresque exigé des cyclistes. Voilà, on exige de vous autres cyclistes un comportement exemplaire.
Moi, je le pense. Je pense que pendant très longtemps, on avait le devoir de désobéir, parce que rien n'était prévu pour nous. Et il fallait prendre les sens interdits dans le mauvais sens. Il fallait recirculer sur les trottoirs, parce la géographie urbaine ne nous incluait pas. Et tout à coup, on nous offre des boulevards, et il faut absolument, cette fois, les emprunter, être respectueux de la signalisation, parce que la rébellion, cette fois-ci, doit laisser place au civisme, à une espèce d'esprit citoyen. Et je pense que ça fait toute la différence, parce que sur un vélo, vélo, on doit être un modèle. Attention, parce que ça n'exclut pas un peu d'esprit de révolte, mais en tout cas par rapport aux voitures, c'est dans cet esprit-là qu'on va réussir à les chasser de la ville en étant plus conviviaux qu'eux ne le sont.
Comportement exemplaire, dites-vous, mais sans vouloir balancer, le personnage de votre BD n'a pas de casque sur la tête. C'est votre cas aussi, Didier Tronchet?
Je devrais en mettre, mais quand je circule avec mon fiston sur le vélo, je mets un casque, mais pour moi c'est
obligatoire en dessous de 12 ans, hein, on
rappelle.
Oui,
bien sûr.
Mathieu Chassignet, voilà qui doit vous intéresser. Le cycliste, la cycliste, doivent-ils être exemplaires en ville?
On a tendance à beaucoup focaliser sur les cyclistes qui roulent sur le trottoir, qui grillent les feux. Moi, je pense que c'est parce que le cycliste, c'est le nouveau venu, donc finalement, il n'a pas vraiment sa place. Et comme c'est le nouveau venu, les automobilistes ont l'impression que le cycliste leur vole un peu leur place sur la chaussée, parce que pendant longtemps, l'automobiliste a été roi. Du coup, ils ont tendance à pointer du doigt les comportements un petit peu déviants, on va dire, des cyclistes. Mais alors, d'une part, chaque mode de déplacement a ses propres infractions, je dirais. Le piéton traverse très souvent en dehors des clous, et on ne va pas lui reprocher de le faire. Il a raison de le faire. Les automobilistes ne se privent pas pour faire aussi beaucoup d'infractions, que ce soit la vitesse, le clignotant oublié, les distances de dépassement, les distances de sécurité, etc. Et après, il ne faudrait pas faire croire que toutes les infractions se valent. C'est-à-dire que griller un feu avec un véhicule d'une tonne 5, c'est quand même un petit peu plus grave, je pense, et ça met un petit peu plus en danger les piétons que le cycliste qui va lui aussi griller son feu, même si je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein.
Ouais, là, vous placez sur le terrain moral plutôt que sur celui du droit.
Il ne faut pas non plus les mettre sur le même plan, quoi. Voilà, chaque...
Voici ce que nous écrit Séverine, une auditrice. Il faudrait instaurer un code de circulation pour les vélos comme à Copenhague. Quand on veut s'arrêter, on lève le bras, on indique avec le bras si on tourne. On ne traverse pas en diagonale les carrefours, on descend de vélo pour contourner ce carrefour. Et on ne brûle aucun feu rouge, écrit Séverine. Et ce sont les vélos qui ont priorité et pas les piétons. Qu'en pensez-vous, Mathieu Chassignet?
Ce qu'on voit, de toute façon, c'est que plus il y a de cyclistes, et plus les cyclistes respectent les règles. Et l'autre chose, c'est que plus il y a d'aménagement pour les cyclistes, c'est-à-dire plus on les prend en compte sur la chaussée, plus ils respectent naturellement les règles. On le voit, par exemple, si vous regardez des vidéos sur les réseaux sociaux ou autres, de la rue de Rivoli, qui a été fermée aux voitures à Paris. Il y a beaucoup de vélos, et tous les vélos s'arrêtent au feu. Tous les vélos s'arrêtent au feu, parce que finalement, quand on est tout seul à faire du vélo, comme Didier Tronchet il y a 20 ans, finalement, on pouvait se permettre on n'était pas vu, on pouvait griller un feu, il n'y a personne qui le voyait. Quand vous avez des dizaines de cyclistes, il y a une sorte de contrôle social qui se met en place. Et vous voulez pas être le mouton noir qui est celui qui va griller le feu alors que tout le monde s'arrête. Donc plus il y aura de cyclistes et plus on leur fera de la place sur la chaussée, plus il y aura de respect finalement des règles. Donc finalement, à tous les maires qui seraient contre un petit peu ces incivilités entre guillemets des cyclistes, la solution elle est toute simple, c'est de développer les infrastructures cyclables.
Sébastien Billard.
Je suis d'accord. Enfin, Copenhague, c'est un exemple intéressant parce qu'en fait, la ville a été remodelée pour que le vélo il soit aussi à son aise. Les gens respectent le code de la route parce que les infrastructures sont adaptées à l'exercice du vélo. À Paris ou dans d'autres villes en France, on a encore une infrastructure qui est modelée pour la voiture, avec beaucoup d'intersections, beaucoup de feux rouges, beaucoup de moments où le cycliste doit s'arrêter, ce qui pousse aussi, d'une certaine manière, à l'infraction, puisqu'en vélo, on ne peut pas non plus passer son temps à mettre le pied à terre.
Tenez, on va retourner au Japon dans un instant, grâce à Vincent Josse et à sa chronique Partir quand même. Voici d'abord Gaëtan Nonchalant sur France Inter. Autant vous dire qu'on y relaxe. Hein. Vous écoutez l'été comme jamais. Thank you. Gaëtan Nonchalant, le choix de Djoubaka, programmateur musical de l'émission. L'été comme jamais, c'est une équipe sémillante. Nicolas Bove et Margot Page à la préparation, avec l'aide d'Alexandre Lejeune, stagiaire. Raphaël Rousseau à la technique et à la mise en onde, à la réalisation. Frédéric Milano, voici Partir quand même sur France Inter. Ce matin, avec le chanteur Albin de la Simone, Vincent Josse lui a demandé de choisir une image pour nous emmener en voyage.
J'ai choisi de vous parler d'un dessin que j'ai fait qui représente un restaurant, un petit, tout petit restaurant de soupe à Nikko au Japon, qui est une ville à quelques heures de train de Tokyo, où il y a un des plus grands sanctuaires Shinto magnifiques. Ce dessin représente l'intérieur du restaurant. On voit au premier plan une table avec des baguettes, des petites serviettes de table et des sauces. Et puis derrière, en deuxième plan, on voit une dame de profil qui est en train de faire la cuisine. Voilà, il y a trois petits machins qui pendouillent en haut à droite qui sont, on dirait, des petits lapins. Je me souviens plus ce que c'est, mais je crois que c'est des petites choses un petit peu fétichistes, des gris-gris, quoi, des sortes de gris-gris. Mon ami m'a fait visiter ce sanctuaire et on mange une soupe dans ce petit restaurant que j'ai dessiné plus tard, avant qu'elle m'emmène longer la rivière à pied, passer derrière les jardins, derrière les maisons, jusqu'à un endroit qui est une autre forme de sanctuaire. C'est un ensemble de Bakejizo. Les Bakejizo, c'est des statues d'enfants. Il doit y en avoir des centaines. Le truc très puissant, c'est que ça représente des enfants qui sont morts avant leurs parents et qui sont dans une sorte de purgatoire et pour lesquels on prie pour qu'ils soient libérés de ce purgatoire et qu'ils puissent aller dans un genre de paradis. Cette rivière est très agitée, on est en plein automne, la lumière est sublime, on est vraiment dans les images magnifiques du Japon en automne, et mon ami me promène là-dedans et moi j'ai vraiment l'impression de rêver. Au retour, on se rend compte qu'on risque de rater le train et que c'est le dernier train, et on est obligé de faire du stop et évidemment personne ne s'arrête, il pleut des cordes en plus, il fait nuit. On finit par monter de force dans une voiture. J'étais donc avec mon amie qui est japonaise et qui explique à une conductrice terrifiée qu'il faut absolument qu'elle nous amène à la gare. On arrive juste à temps au dîner auquel je devais me rendre. Et pendant le repas, je vois que ma copine commence à lutter contre le sommeil, à avoir les yeux qui se ferment et la tête qui ondule un peu. Et d'un seul coup, elle s'endort profondément sur la table à la droite de l'ambassadeur de France. Voilà où m'emmène ce dessin.
La Simone au micro de Vincent Josse, réalisation Karen Deshayes. Et pour voir ce dessin, bien sûr, vous cliquez à la page de Partir quand même sur le site de France Inter. Sur Inter, à vélo, on dépasse les autos. La vélorution au menu de cette première heure de l'été comme jamais en partenariat avec l'Obs, avec Sébastien Billard de l'Obs, avec Mathieu Chassignet de l'ADEME et avec Didier Tronchet, auteur de bande dessinée et vélosophe averti. Une auditrice nous a passé un coup de fil. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur France Inter. Vous avez une agence de voyage, je crois.
Oui, c'est ça. On a une agence de voyage depuis pas longtemps, hein. Ça fait moins d'un an. C'est une petite agence de voyage spécialisée dans le voyage sur mesure en Bretagne.
D'accord.
Et on a décidé d'essayer de faire les choses différemment et puis de créer nous-mêmes en fait nos expériences plutôt que de passer simplement par d'autres partenaires. Et notamment, on a créé une balade à vélo à Rennes pour découvrir Rennes et les environs.
Rennes fait partie des villes qui étaient en avance, hein, sur le vélo en libre location, je crois.
Alors oui, il y a un système comme le Vélib, on a le Vélostar à Rennes. Donc ça, c'est plus pour les habitants, parce qu'après, pour se déplacer sur plusieurs heures, c'est plus conseillé de louer un vélo dans un magasin.
Chez vous, par exemple.
Voilà. mais après, ce qui est bien avec Rennes aussi, c'est que depuis plusieurs années, ils ont vraiment aussi participé à la transition, comme vous en parliez ce matin à l'antenne. Ils ont mis en place beaucoup de pistes cyclables. Il y a un vrai réseau cyclable dans Rennes qui permet vraiment aux habitants de se déplacer. Et moi, c'est comme ça que je m'y suis mise. Hein.
Alors, vélo électrique ou pas électrique, Émilie?
Alors, pas électrique.
Ah.
Pas électrique, ça c'est la question qui s'est posée quand on a démarré, quand on a voulu se lancer dans cette aventure. Mais en fait, Rennes, c'est une ville plate. Il n'y a pas de montagne chez nous. En Bretagne, il y en a un peu, il y a les monts d'Arrée, ils sont pas très loin, mais à Rennes, c'est plat. Donc, pour nous, le vélo électrique, alors c'est bien, c'est pratique, c'est facile, mais c'est surtout aussi une mode. En tout cas, je parle du tourisme. Il y a beaucoup de villes, pour en citer qu'une, par exemple Barcelone, hein, qui est une ville très touristique que je connais bien aussi, et là il y a beaucoup de balades à vélo en vélo électrique, et ça c'est pour moi, je pense, vraiment une mode, parce que Rennes et Barcelone, ce sont des villes plates, donc nous on propose des balades en vélo classique, et puis on trouve aussi que ça permet d'avoir de meilleures sensations, en fait, de retrouver les vraies bonnes sensations de la bicyclette.
Merci beaucoup, Émilie, pour ce témoignage. Très bonne journée à l'écoute de France Inter. Sébastien Billard, c'est une mode, le vélo électrique, c'est aussi bien pratique pour les personnes les plus fragiles, peut-être.
C'est pratique et ça permet de lever un certain nombre de blocages psychologiques chez beaucoup de personnes.
Ah oui ?
Beaucoup de personnes redoutent de ne pas avoir la capacité physique de faire du vélo tous les jours. Et ça permet de les mettre sur un vélo plus facilement. Ça permet aussi de faire des distances beaucoup plus longues. Certes, plein de villes en France n'ont pas de relief, mais ça permet de faire plutôt du 10 ou 15 km que du 5 km. Je pense qu'il y a quand même un effet psychologique qui est assez important dans le vélo électrique.
Je serais curieuse de connaître l'avis de Didier Tronchet, vélosophe sur le vélo électrique.
Moi, je ne suis pas un intégriste du vélo au point de décider que...
Grand bien vous fasse.
Qu'il y a des catégories qui ne doivent pas exister, mais je suis ravi que plus il y aura de vélos électriques, plus il y aura de vélos tout court. Mais c'est vrai que je regrette l'aspect de l'effort. Il ne s'agit pas d'avoir la nécessité de l'effort, de souffrir. Il n'y a pas de souffrance dans l'effort.
L'effort pour l'effort, non.
Non, c'est pas. Il n'y a pas de souffrance dans cet effort du vélo. Il y a au contraire un moment dont je répète qu'il ne nous crée vraiment de la joie.
Ça crée une compétition, mais en ville, dans les bouchons qu'on voit désormais sur les pistes cyclables, c'est compliqué la cohabitation entre le vélo électrique et le vélo traditionnel, non ?
Oui, plus les scooters et les motos et tout ça, et il y a une espèce de grande bataille qui se profile. Moi, je pense qu'il faut laisser tomber l'idée de compétition absolument et d'aller plus vite et d'être le plus fort, parce que ça, c'était l'apanage des gens en voiture ou bien des motos. Et le nôtre, malheureusement, c'est la modestie mécanique, d'abord. On avance très peu, très vite, mais dans cette lenteur s'installe quelque chose qui est irremplaçable, qui va même plus vite, en tout cas dans la tête, qu'une mobylette ou un vélo électrique qui lui procure une sensation de rapidité, mais extérieure.
Nous parlions tout à l'heure de civisme ou d'incivisme. On reçoit beaucoup de messages sur le site de France Inter pour dire que les vélos sont très dangereux pour les piétons. Notamment Pascal qui nous écrit ceci. L'incivisme est malheureusement devenu la règle en l'absence de quasiment tout contrôle et de toute sanction. La rue est plus que jamais une jungle. Voilà l'opinion de Pascal. Et puis cette question d'Ismaïl. J'ai découvert le plaisir du vélo en ville à Londres, dit-il. Suite à plusieurs accidents, les manifestations de cyclistes pour une meilleure prise en compte de leur sécurité ont transformé la ville dès les années 2000. Sommes-nous en retard en France ? Demande Ismaïl. Je pose la question à Mathieu Chassignet. Et si oui, pourquoi ?
C'est vrai qu'on est plutôt dans le groupe étau de l'Europe, hein, sur le vélo. On est largement dépassé par alors les Pays-Bas, le Danemark bien évidemment, mais également par l'Allemagne, par l'Italie du Nord, par la Suisse, etc. Voilà, on a beaucoup de retard. Nous en France, on est à peu près entre 2 et 3% des déplacements qui sont faits à vélo, alors que dans d'autres pays, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc effectivement, on a du retard.
Alors quels sont les freins au développement de la bicyclette en France?
Le frein le plus important, c'est la sécurité, c'est le sentiment d'insécurité à vélo. Et c'est vrai que le vélo, on lui donne pas toujours de bonnes conditions pour circuler. C'est pas que les gens ne veulent pas faire du vélo, puisque les enquêtes montrent qu'à peu près 60% des Français qui aimeraient bien se déplacer à vélo, qui ont des trajets compatibles avec la pratique du vélo en termes de longueur.
Mmh. 50% des Français, je crois, habitent à moins de 10 km de leur lieu de travail. Hein.
50% des Français habitent à moins de 10 km de leur lieu de travail, 30% habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Donc il y a un potentiel important pour le vélo. C'est-à-dire que les 3%, c'est pas inéluctable. On pourrait faire beaucoup mieux, on pourrait faire largement mieux. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut faire des itinéraires cyclables qui soient sécurisés. Il faut faire respecter les itinéraires cyclables aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'incivilité, mais il y a une incivilité qui freine beaucoup la pratique du vélo. C'est les voitures qui se stationnent sur pistes cyclables, soi-disant pour 5 minutes. C'est aussi les deux roues motorisées qui se permettent d'emprunter les infrastructures cyclables, ce qui donne un sentiment d'insécurité assez important aux gens qui sont à vélo. Voilà, donc si on veut faire les choses bien, il faut faire des pistes cyclables qui sont sécurisées, qui sont séparées au maximum du trafic, et il faut les faire respecter. Et donc forcément, il faut du volontarisme politique pour faire ces aménagements, leur faire de la place et pour mobiliser aussi les moyens de contrôle nécessaires.
Un autre frein signalé par Véronique, une auditrice. Dommage que la SNCF n'autorise que très peu le transport des vélos dans les trains, surtout dans les TGV, écrit Véronique. Sébastien Billard, on voit en photo Geoffroy Roux-de-Bézieux, dans l'Obs de cette semaine, le patron du MEDEF. Il pose en magnifique tenue de cyclotouriste, il a un beau vélo et il déclare... Le vélo, c'est le nouveau golf. Il faut nous expliquer ceci.
Ouais, les milieux économiques se mettent aussi au vélo. Alors on a des entreprises d'un côté qui se mettent à fournir à leurs salariés des vélos de fonction, mais on a aussi des dirigeants qui, de plus en plus, vont réseauter non plus autour d'une partie de golf comme autrefois, mais autour d'une sortie vélo.
Alors réseauter, c'est donc faire du réseau, hein, rencontrer des éventuels partenaires,
contacts, signer des contrats éventuellement. Et voilà, la balade à vélo est devenue aujourd'hui un lieu de rendez-vous pour certains cercles économiques.
Est-ce que cela aboutit vraiment à des signatures de contrats grâce à la bicyclette?
Pas forcément, mais c'est avant tout un moyen de se voir, d'entretenir un lien entre ces gens-là.
Le vélo a donc ringardisé le golf dans le milieu des affaires.
Il y a eu un renversement d'image pour le vélo. Jusqu'à très peu de temps encore, le vélo était jugé ringard, justement. On avait un peu cette image du sportif du Tour de France avec un maillot pas forcément très, très saillant. Aujourd'hui, le vélo, ça devient aussi un outil très haut de gamme, très classe aussi.
Puisque vous parlez du Tour de France, Sébastien Billard, le fait qu'il ait lieu cette année en septembre, après la rentrée scolaire, c'est une sacrée révolution là au
Il y a un manque, en ce moment, non.
Vous trouvez que ça manque?
Moi, ça me manque.
Ouais, ça vous manque. Et ce sera bizarre de le suivre après la rentrée des classes.
Ouais, après, ouais. Je pense que la force de cette course, finalement, peu importe le calendrier, elle est tellement forte, elle a tellement une mythologie importante que je pense que ça n'a pas tout changé.
Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Chassinier?
Oui, tout à fait. Mais pour en revenir à Monsieur Roux-de-Bézieux, c'est très bien qu'il signe des contrats à vélo. Moi, ce qui serait encore mieux, c'est qu'il se rende compte que le vélo, c'est très bon pour les salariés. On sait très bien que les salariés qui se rendent au travail à vélo améliorent globalement leur santé et sont du coup moins souvent absents que les salariés qui se déplacent autrement. Donc, il ferait bien de prendre conscience de ça et d'encourager les entreprises adhérentes au MEDEF à valoriser le vélo. Et il existe un dispositif qui s'appelle le forfait mobilité durable qui permet de donner une indemnité aux personnes qui vont travailler à vélo, ce qui leur permet de financer leur vélo et puis leurs équipements jusqu'à 400 euros par an. Donc il ferait bien de promouvoir ce dispositif auprès de toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises de France.
Finalement,
ce serait très bon pour leur productivité d'ailleurs.
Finalement, celles et ceux qui devraient lever le pied sur le frein au développement du vélo, ils sont très nombreux. C'est les autorités, les villes, les chefs d'entreprise, la SNCF, il y a un nombre d'acteurs absolument considérable, Mathieu Chassinier.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle le système vélo, c'est-à-dire si on veut que les gens fassent du vélo, il faut pouvoir rivaliser avec ce qu'on appelle le système voiture, qui est très perfectionné, puisqu'on a des routes, on a des garages qui permettent d'entretenir sa voiture, on a un GPS qui permet de se diriger, etc. Et ben il faut faire pareil pour le vélo. Il faut faire à la fois des infrastructures, des services, des incitations, apprendre à faire du vélo aux enfants dès le plus jeune âge. Donc le savoir rouler à vélo dans les écoles, c'est une disposition qui est très importante et qui peut avoir un vrai impact sur la pratique du vélo. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre, et c'est donc du coup tous les acteurs que vous avez cités qui doivent se mobiliser pour qu'on change de paradigme.
D'autant, Didier Tronchet, que le vélo, c'est vous qui l'écrivez, est une ligne directe vers l'enfance.
Absolument, il suffit de monter sur un vélo et tout de suite on est en liaison.
Et on roule sans les mains.
Et on fait du sans main, oui. Parce que c'est le premier instrument qu'on a découvert de liberté quand on était enfant et on le retrouve, mais absolument immédiatement. Il suffit de pédaler sur un vélo à un moment et on se dit, mais d'où vient cette espèce de plaisir que j'ai? Il vient de l'enfance en grande partie, du sentiment de liberté qu'on a acquis à cette époque-là et qu'on retrouve et qui est effectivement la source d'un grand décalage par rapport à l'esprit qu'on peut avoir d'emprisonnement de la ville. Tout à coup, la sortie vers l'esprit de liberté dans l'enfance est bénéfique.
On évite d'écouter de la musique à vélo, c'est dangereux, mais l'atmosphère de cette chanson va bien, je trouve, avec une promenade à bicyclette. Voici Norah Jones sur France Inter. Extrait du nouvel album de Norah Jones.
France Inter, l'été comme jamais.
Et voici qu'approche la fin de la première heure de cette émission. J'ai une toute dernière question à poser à mes invités. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, Didier Tronchet.
Oui, alors c'est un sujet très contemporain. Il s'agit du masque. Ah. Voilà, évidemment, au début, quand j'ai vu apparaître les premiers masques, j'avais cette espèce de distance ironique qu'on se doit d'avoir quand on est français. Et on se laisse pas avoir. On n'est pas.
On ne la fera pas, moi.
On n'est pas un mouton et tout ça. Puis j'ai compris très vite qu'il se cachait derrière un esprit de civique, d'être un citoyen, un bon citoyen. Et puis surtout, les arguments de ceux qui sont contre le masque m'ont paru assez aberrants, c'est-à-dire revendiquer sa liberté, mais c'est avant tout une liberté de contaminer. Et puis aussi, moi je ne crois pas qu'il s'agit de liberté, il faut garder ce mot pour les grands combats, c'est surtout le confort qui les aînait. C'était plutôt garder le confort plutôt que la liberté.
Même question à vous, Sébastien Billard, rapidement. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Je vais rester sur le vélo, j'ai changé d'avis sur le vélo électrique. J'étais assez réfractaire au début, et je me rends bien compte que ça a un effet... très positif sur la démocratisation du vélo. Donc
Mathieu Chassinier, à vous.
Moi, j'ai changé d'avis récemment sur la Convention citoyenne pour le climat. Mm-hmm. Donc, les 150 citoyens tirent au sort pour faire des propositions pour baisser drastiquement nos émissions de CO2. C'est vrai qu'au début, j'étais assez sceptique par rapport à cette forme de démocratie. quand ça a été annoncé par Emmanuel Macron comme porte de sortie de la crise des gilets jaunes, je pensais que je craignais vraiment que les particuliers voient un petit peu chacun un peu midi à sa porte, et que les propositions soient un petit peu anecdotiques ou pas très cohérentes entre elles. Et puis en fait, quand j'ai vu le résultat qui a été publié récemment, je trouve que c'est vraiment très très ambitieux, que tout ça est très cohérent. Et donc je me dis que c'est peut-être une forme de démocratie à reproduire sur d'autres sujets, et puis peut-être aussi au niveau local sur le climat, mais au niveau local dans les villes, dans les territoires.
Merci beaucoup à tous les trois. Petit traité de vélosophie de Didier Tronchet, c'est un régal et c'est à lire chez Delcourt. Je recommande aussi la BD que vous publiez chez Air Libre, Le chanteur perdu, un beau voyage à la recherche d'un chanteur dont on se demande s'il a vraiment existé. Retrouvez en kiosque le nouveau numéro de l'Obs, Vive la Vélorussion. Et merci à France Bleu Nord pour la liaison en duplex avec Mathieu Chassignet. Très bonne journée à vous trois. Merci. Et à bientôt sur France Inter.